Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. Il y a une douzaine d'années, j'ai visité une église anglophone à l'époque de l'Avent, et ce jour-là, le pasteur prêchait sur le même texte que moi ce matin, qui nous dit que la parole s'est faite homme. Et en fait, littéralement, dans le texte original, mais dans pas mal des traductions, c'est retranscrit ainsi, la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Et le titre que ce collègue avait donné à son message était, traduit en français, « Dieu concarné ». God concarné, un jeu de mots avec le chili concarné. Alors ça pouvait se défendre dans un sens parce que carne en espagnol, carne, je vais bien le prononcer pour nos amis, ce mot traduit à la fois le mot viande et le mot chair qui est utilisé dans ce verset, comme nous l'avons dit. Mais il faut reconnaître que le titre avait un caractère quand même un petit peu choquant, et faire un jeu de mots associant Dieu à un plat n'était peut-être pas la meilleure idée. Cela dit, il faut reconnaître que ce qu'écrit Jean dans notre verset était encore bien plus choquant pour ses premiers lecteurs. La traduction que nous utilisons habituellement, la seconde 21, a traduit « La parole s'est faite homme » et le sens est juste. Mais je l'ai dit, dans l'original, Jean dit littéralement « La parole s'est faite chair ». Celui que Jean nous présente depuis le début de ce chapitre 1, comme le logos, c'est-à-dire, on le traduit parfois par le verbe de Dieu, la parole de Dieu, celui qui est lui-même Dieu, qui existe depuis toujours et qui a tout créé, eh bien, il s'est fait chair. Il a pris la condition humaine. Et on est là au cœur de la foi chrétienne. Sans cette affirmation bouleversante qu'on appelle l'incarnation, Dieu fait chair, il n'y a pas de christianisme authentique. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Je vous propose d'examiner plus précisément ce que Jean nous dit dans ce verset en deux temps. D'abord Dieu comme nous et ensuite Dieu avec nous. Dieu comme nous d'abord. La parole s'est faite homme, la parole s'est faite chair, écrit Jean. Il nous faut bien prendre conscience de ce qu'il nous dit exactement. Jean ne nous dit pas que le Verbe divin a pris l'apparence de la chair. Non, le Logos est devenu, s'est fait chair. Il y a deux semaines, nous avons vu, avec les cinq premiers versets du chapitre, que pour des lecteurs juifs, le mot Logos, parole que Jean utilise ici, renvoie avant tout au Dieu créateur qui a créé par sa parole, qui s'est exprimé et a appelé toute chose à l'existence par cette expression de lui-même. Et c'est ce sens, que Jean veut souligner en premier lieu. Mais Jean, qui est un auteur d'une grande subtilité, savait en l'écrivant que pour des lecteurs grecs, de culture et de pensée grecque, ce mot logos, il évoquait plutôt un esprit impersonnel, une force immatérielle qui soutient le monde. Mais dans les deux cas, l'idée que la parole s'est faite chair, c'était inconcevable. Pour des lecteurs juifs, l'idée que le Dieu créateur, qui est à l'origine de toute la matière, puisse devenir chair, c'était impensable. Dieu est esprit. Comment Dieu peut-il devenir chair? Et spontanément, c'est aussi notre réaction, je pense. Mais pour des lecteurs grecs à l'époque de Jean, c'était au moins aussi choquant, voire plus. Comment peut-on imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que l'esprit par excellence, le logos, cette pensée impersonnelle qui soutient le monde, selon eux, puisse devenir chair, que l'esprit puisse devenir matériel? C'est scandaleux. Dans la pensée grecque de l'époque, en tout cas dans la pensée dominante de l'époque, précisément, on oppose la matière et l'esprit, et il ne faut surtout pas les confondre. Ceux qui ont fait une année de terminale en France se rappelleront peut-être la célèbre allégorie de la caverne chez Platon, des prisonniers qui sont dans une caverne et qui essayent de deviner ce qui se passe dehors, en gros, à partir des ombres qu'ils voient sur les murs. et enfin sur les parois, disons. Et l'idée communiquée par cette célèbre image est que ce qu'on peut voir de nos yeux, le monde matériel, n'est en fait que l'ombre de ce qui existe dans le monde abstrait, le monde des idées. Et c'est ça la vraie réalité à laquelle qu'il faut atteindre, c'est le monde des idées, le monde abstrait. La matière, c'est qu'une ombre faible de cela. Alors dire que l'esprit immatériel qui gouverne le monde entier s'est fait chair, c'est absurde et scandaleux selon cette façon de penser. Donc il faut bien prendre conscience à quel point ces quelques mots de l'apôtre Jean sont explosifs dans son contexte. Ils nous disent que Dieu, tout en restant Dieu, est, dans la personne de Jésus-Christ, est devenu chair. En Jésus, Dieu est devenu homme. Il n'a pas simplement pris l'apparence d'un homme, il est devenu un homme. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ou non, il y a une dizaine d'années à peu près, la journaliste Florence Aubenas, grand reporter à Libération, s'est infiltrée pendant 6 mois dans le monde du travail précaire. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'a même pas changé son nom, en fait, supposant que les personnes dans ce milieu-là n'aurait jamais entendu parler d'elle, ce qui était effectivement le cas pour l'essentiel. Et elle a travaillé 6 mois comme femme de ménage, à laver des toilettes dans des lieux publics, à vivre au quotidien avec très peu. Et c'est une expérience forte qu'elle a relatée dans un livre, Le Quai de Ouistreham. Mais Florence Aubenas l'a reconnue elle-même dans les interviews qui ont suivi, quand elle a fait la promotion de son livre. Tout au long de ces 6 mois, elle savait qu'elle n'était pas vraiment cette femme de ménage précaire, en situation de précarité. Elle en a pris l'apparence, mais c'était une parenthèse fictive. Ensuite, elle est retournée dans sa vie parisienne, sa notoriété, assez connue parce qu'elle avait été otage en Irak quelques années plus tôt, son aisance financière, etc. On peut penser parfois que l'incarnation, de même, serait une sorte d'immersion temporaire de Dieu parmi l'humanité, par laquelle Jésus aurait en quelque sorte joué le rôle d'un homme pour un temps. Mais Jean ne nous dit pas du tout cela. Le Verbe s'est fait chair, il est devenu un homme. D'ailleurs, aussi mystérieux que ce soit pour nous à saisir, tout au long de ce chapitre, on est vraiment au-delà de la limite de ce qu'on peut saisir, mais aussi mystérieux que ce soit pour nous à saisir, Jésus n'a pas cessé d'être homme après la croix. Il est ressuscité en tant qu'homme, c'est précisément le sens de la résurrection. Il reviendra, nous dit la Bible, en tant qu'homme, et il règnera sur une création transformée et éternelle en tant qu'homme. En Christ, Dieu est définitivement rentré dans la condition humaine. C'est absolument stupéfiant, et on vient de le dire, ça dépasse largement ce que notre raison est capable de concevoir. Comme je le disais il y a 2 semaines, c'est normal qu'on ne puisse pas tout comprendre de Dieu. Le contraire devrait nous inquiéter si on pouvait tout expliquer et tout comprendre. Et Jean le sait parfaitement. Mais inspiré par le Saint-Esprit, il nous dévoile cet aspect central de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait comme nous. Et il poursuit avec cette autre parole saisissante un peu plus loin dans le verset. Nous avons contemplé sa gloire. Peut-être qu'aujourd'hui nous lisons cette phrase sans faire attention. Nous avons contemplé sa gloire. Mais la gloire de Dieu, c'est précisément ce que normalement l'homme ne peut pas contempler. Dans l'Ancien Testament, quand quelques hommes et femmes ont ne serait-ce qu'un aperçu de la gloire de Dieu, ils tombent face contre terre, ils tremblent, ils doivent se cacher. Moïse dit au peuple d'Israël de s'éloigner de la montagne où Dieu manifeste un aperçu de sa gloire, parce que sinon ils risqueraient de mourir. Et cela alors que ce n'est pas Dieu dans la réalité de son être qu'il voit, mais un aperçu, un reflet de sa gloire. Si ces récits nous paraissent un peu étranges, prenons un instant pour considérer que Dieu est le créateur des étoiles et des galaxies, celui qui maîtrise l'infinité du temps et de l'espace. Et là, on prend peut-être un peu conscience que normalement, il devrait être impossible pour l'être humain de pouvoir discerner, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de cette gloire. Dieu explose toutes nos catégories, tout ce que nous sommes capables d'expérimenter et de comprendre. Et pourtant, Jean affirme ici, nous avons contemplé sa gloire. Il ne parle pas de nous, hein. Nous n'avons pas contemplé la gloire de Jésus telle que Jean l'a vue. Mais Jean, lui, a vu Jésus Et c'est ce qu'il veut dire précisément. Il parle de Jésus, et Jésus, il l'a vu, il l'a connu, il lui a parlé, il a vécu à ses côtés. Jésus était même son ami. Mais Jésus, nous dit Jean, est aussi le Logos, le Verbe, Dieu venu dans la condition humaine, Dieu qui s'est révélé à nous. Jean a vu de ses yeux en Jésus le Dieu éternel et créateur. Et il a pu contempler sa gloire. Il n'a pas eu à tomber face contre terre. Il a pu contempler sa gloire. Au début de sa première lettre, Jean dit à peu près la même chose. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. « Ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons entendus, ceux que nous avons vus de nos yeux, ceux que nous avons contemplés et que nos mains ont touchés concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. » Et là aussi, Jean braque le projecteur sur ce profond mystère. Le Dieu invisible s'est rendu visible. Et nous l'avons vu, dit Jean. Et Jean en parle pour en témoigner, pour que nous, qui ne l'avons pas vu de cette façon, puissions croire. Nous avons contemplé sa gloire, s'émerveille Jean. Il précise, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et là, ça anticipe un petit peu ce qu'il dira plus loin au verset 18, et Paul Harrison nous en dira plus la semaine prochaine. Il parle du Dieu Fils unique qui est dans l'intimité du Père. On est au cœur du mystère, Dieu s'est fait chair. Je voudrais tirer deux implications de cette affirmation qui me paraissent très importantes pour nous tous, que nous soyons chrétiens ou pas encore. D'abord, Jean nous rappelle que le message central de la foi chrétienne n'est pas qu'il faut trouver Dieu, mais que Dieu est venu nous trouver. Ce n'est pas que nous devons trouver Dieu, nous en serions bien incapables en fait, mais c'est Dieu qui est venu nous trouver. L'astronaute James Irwin, qui était le 8e homme à marcher sur la Lune, a prononcé cette phrase qui est restée célèbre, un peu moins que celle d'Armstrong quand il a marché pour la première fois sur la Lune, et on comprend aussi pourquoi elle a peut-être moins de popularité, mais voilà ce qu'il a dit, James Irwin. « La conquête de l'espace est resituée dans une juste perspective lorsqu'on comprend que ce qui est le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre. » Ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais que Dieu ait marché sur la terre. Ça, c'est plus important. Dieu est venu nous trouver. Et ça renverse totalement le schéma habituel de la religion, où il s'agit d'essayer de s'élever vers le ciel. Non, nous dit Jean, à l'unisson avec le reste du Nouveau Testament, c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu vers nous. Et même si, pour nous qui sommes chrétiens, nous le confessons régulièrement, je ne suis pas sûr que nous tirions toujours toutes les conclusions de ce renversement. D'abord, le fait que Dieu soit venu sur terre en Jésus-Christ, et plus encore que Dieu soit devenu chair, cela nous dit que ce monde compte infiniment aux yeux de Dieu. Et je pèse mes mots, infiniment. La création est si importante aux yeux de Dieu qu'il est venu lui-même s'incarner dans cette création. Pourtant, il est venu dans un monde qui s'était révolté contre lui. Verset 5 de ce chapitre, les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il est venu dans le monde de la faim et de la soif, le monde des guerres, le monde de l'agitation, le monde des grèves. Il est venu dans le monde où les cœurs se brisent, où les larmes coulent, où la colère rôde, où les colères éclatent. Il est venu nous rencontrer dans cette réalité-là. Et nous ne sommes pas donc invités à nous échapper de ce monde, mais à accueillir celui qui est venu dans ce monde et qui annonce qu'il va le transformer. Aujourd'hui, par une parole qui change les vies, une à une, et un jour, lorsque cette parole de Dieu aura le dernier mot, par ce que la Bible appelle le renouvellement de toutes choses, la nouvelle création, la fin du mal et de la mort. Dieu ne nous demande pas de nous échapper de la réalité, mais quand on place sa confiance dans le Dieu créateur, toute la réalité prend un sens nouveau. Des choses qui paraissaient très importantes, plutôt centrées sur nous-mêmes, vont devenir, Dieu, si Dieu le permet, moins importantes. Parce que connaître le Dieu de l'univers remet tout le reste à sa place. mais il y a aussi des choses qui paraissaient peu importantes, plutôt centrées sur Dieu et sur les autres, et qui deviennent plus importantes. Bref, quand on connaît le Dieu qui est à l'origine de la vie et qui nous a créés pour le connaître, quand on saisit sa main tendue, eh bien, nos cœurs commencent à changer. Il y a des reculs et il y a des rechutes. Je pense que tous ceux parmi nous qui sommes chrétiens, nous pouvons en témoigner. Mais nous avons les yeux fixés sur un nouvel horizon. Dieu, l'éternité, la vie, la joie, la paix. L'autre implication que je voudrais tirer de cette venue de Dieu dans notre condition, c'est justement que Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ. Jean nous l'a dit au verset 5, « En lui, il y a la vie. » Et c'est la vie avec un grand V. Si on veut trouver Dieu, c'est en Jésus qu'on le trouvera. Et là encore, il faut souligner que s'il est vrai que Dieu garde bien des aspects de sa personne mystérieuse, pour nous encore, bien sûr, c'est néanmoins un Dieu qui s'est révélé au grand jour. Et par conséquent, il n'y a pas besoin de faire des expériences mystiques ou de grands exercices spirituels pour le rencontrer. Je ne nie pas l'utilité que puisse avoir des exercices spirituels, mais ce n'est pas ainsi qu'on va rencontrer Jésus. Dieu se laisse rencontrer en Jésus. C'est lui qui est venu vers nous. Non pas en dehors de notre réalité, mais dans notre réalité. En Jésus, Dieu est perpétuellement disponible pour nous. En Jésus, Dieu s'est rendu proche. Et ça nous amène à notre second point, un peu plus brièvement. Dieu avec nous. Alors en fait, c'est dans l'évangile de Matthieu et non pas celui de Jean que Jésus est présenté dans ces mots exacts. Dieu avec nous. Mais Jean nous dit la même chose dans ce verset. Et dans un sens, il va même plus loin encore. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Les traducteurs de la Bible ont pas mal de débats sur la manière dont il faut exactement traduire cela. Parce qu'en fait, vous savez ce que Jean écrit très exactement dans le texte original en grec ? Il écrit « La parole s'est faite chair et elle a planté sa tente parmi nous. » Elle a planté sa tente parmi nous. Le Verbe de Dieu a planté sa tente au milieu de nous. Alors aujourd'hui, quand, je ne sais pas pour vous, quand on pense à planter une tente, on a peut-être en tête une arrivée au camping sous la pluie battante et on ne retrouve plus le sac avec les sardines, avec les piquets. J'aime pas beaucoup le camping. Mais le mot tente chez Jean implique quelque chose de beaucoup plus sérieux. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu s'est révélé à lui sur le mont Sinaï. Il lui a confié sa loi à Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du livre de l'Exode ? On lit que Dieu appelle son peuple à établir une tente, la tente de la rencontre ou tabernacle, qui manifesterait symboliquement la présence de Dieu au cœur de son peuple. Et dans cette tente, qui est en fait le précurseur du temple, qui viendra plus tard, dans cette tente, Dieu a demandé que les tables de la loi, avec les 10 commandements au cœur de cette loi, soient placées dans un coffre, l'arche de l'Alliance, et laissées dans une section sacrée de la tente où seul un homme, un grand prêtre, pouvait pénétrer une fois par an. La suite de la Bible montrera clairement que tout cela avait une valeur symbolique. Dieu n'était évidemment pas plus présent dans cette tente qu'ailleurs. Mais il s'agissait de donner au peuple conscience de la présence de Dieu et de son caractère glorieux et sacré. Quelque chose que peut-être nous oublions, combien la présence de Dieu est quelque chose de glorieux et sacré. Mais on l'oublie en partie parce que précisément Dieu s'est rendu tellement accessible à nous. C'est pour cela que la loi de Moïse, parce qu'on ne peut pas comme ça accéder à la présence de Dieu, c'est pour ça que la loi de Moïse a institué des sacrifices d'animaux, des offrandes diverses, pour manifester le fait que l'homme pécheur est indigne de se présenter devant Dieu et que l'homme a besoin de pardon. La tente dans l'Ancien Testament, donc, ça renvoie au fait que Dieu est avec son peuple. Mais en même temps, sa présence reste comme voilée, littéralement, il y avait un voile. Il y a cet obstacle du péché, de l'indignité de l'homme qui fait qu'il n'est pas possible d'accéder librement à la présence de Dieu. L'homme doit accomplir des sacrifices pour manifester qu'il a besoin de la grâce de Dieu et de son pardon. Mais que nous dit Jean dans ce verset ? La parole s'est faite homme, elle a planté sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus est venu manifester pleinement la présence de Dieu, mais ce qui est le plus stupéfiant, c'est qu'il a résidé parmi son peuple, plein de grâce et de vérité. Le Fils de Dieu est venu résider dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais au contraire pour le sauver. Comme nous le disions, la porte est grande ouverte. Jésus a rendu Dieu pleinement disponible. Ce qui était impensable est devenu une invitation lancée à tous. L'exemple est assez dérisoire, mais il y a quelques jours, des manifestants ont ouvert, dans le cadre de tous les troubles que nous connaissons actuellement, ont ouvert le barrage de Saint-Arnoult et ont laissé passer tout le monde gratuitement. Déjà l'an dernier, les Gilets jaunes avaient fait cette action-là. Moi, je trouve que ce ne serait pas une mauvaise idée à la RATP, plutôt que de ne pas travailler, juste de laisser les gens passer. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais je m'en tiens à l'image. L'action est sans doute contestable. Hein. Ouvrir le barrage de Saint-Arnoult, c'est recommandé à personne. Mais voilà, ce qui normalement est entrouvert, on peut quand même passer, mais il faut payer. Ça nécessite un prix à payer. Était désormais grand ouvert pendant quelques heures. Tout le monde pouvait passer. Alors que dans la tente de la rencontre, la présence de Dieu était cachée et voilée, on ne pouvait pas s'en approcher. Eh bien, en Jésus, tous peuvent s'approcher. Dieu est venu dans le monde non pas pour être contre nous, mais avec nous. Et comme le dit l'apôtre Paul, pour nous. Alors bien sûr, il nous invite à saisir cela par la foi. Si nous refusons d'accueillir cette parole, pour reprendre les mots du chapitre, eh bien, nous nous exposons à rester sous la colère de Dieu, rester sous le jugement. Si nous refusons la grâce, nous ne pouvons pas espérer être l'objet de grâce, c'est évident. La parole s'est faite chair et elle a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Or, il n'y a rien dont nous ayons plus besoin dans nos vies que la grâce et la vérité. Il n'y a rien dont nous ayons plus besoin. Des plus petites choses du quotidien au grand tournant de notre vie, nous avons désespérément besoin de la grâce de Dieu, par laquelle il nous promet que son pardon, sa paix et la communion avec lui auront toujours le dernier mot. C'est ça qui est merveilleux avec la grâce de Dieu, c'est que c'est une promesse pour là où Dieu nous emmène. Ce n'est pas la promesse dans la condition présente que tout ira bien aujourd'hui, mais c'est la promesse que c'est Dieu qui nous conduit. Et que si c'est lui qui est notre berger, et que si c'est lui qui nous conduit, nous n'avons rien à craindre de l'aboutissement final de tout cela. La communion avec lui aura toujours le dernier mot. Si nous accueillons la grâce que Dieu offre, nous avons cette assurance dont parlaient déjà les prophètes de l'Ancien Testament. Je cite Ésaïe, chapitre 25, versets 7 et 8. « Il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. » Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Et cette grâce, elle prendra toute sa place au dernier jour. Mais dès aujourd'hui, en accueillant la grâce de Dieu, qui est pleinement disponible en Jésus, pleinement disponible, nous nous raccordons, si j'ose dire, à cette source éternelle de grâce. Nous nous ancrons dans la vie de Dieu. Mais la grâce va de pair avec la vérité. La vérité sur Dieu dont nous avons besoin pour pouvoir accéder à la vérité sur nous-mêmes. Si nous nous mentons à nous-mêmes sur Dieu, nous nous mentons à nous-mêmes sur nous-mêmes. La vérité qui nous dit que nous avons été créés par quelqu'un de plus grand que nous, qui nous a laissé partir, dans un sens, mais qui est venu nous retrouver. Qui non seulement s'est fait chair, mais qui est allé jusqu'à subir la mort sur la croix, à notre place. Le prix que nous n'avons plus à payer pour nous approcher de Dieu, nous n'avons plus à le payer parce que Jésus l'a payé à notre place. Dieu n'est pas seulement venu vers nous, il a affronté la mort et toute la puissance du mal pour nous. Et c'est pour ça que sa présence nous est éternellement offerte. L'invitation est lancée à tous. Elle vous est lancée à vous qui êtes peut-être parmi nous aujourd'hui et qui n'avez pas encore accueilli cette grâce de Dieu. Et qui, aussi difficile à dire que ce soit, vous expose encore à son jugement. n'attendez plus. En Jésus, Dieu s'est fait comme nous et il était avec nous. Amen.